Je suis Joanne Hamel et je suis psychothérapeute par l'art.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Le moindre que l'on puisse dire, c'est que notre invitée d'aujourd'hui est une figure très importante dans le domaine de l'art-thérapie au Québec. Entre autres parce qu'elle a été une des premières à enseigner l'art-thérapie aux étudiants francophones alors que la formation en art-thérapie de l'UQAT n'existait pas encore. On peut aussi dire que comme Obélix, notre invitée a tombé dans la marmite du druide de l'enseignement. Car avant même de devenir une art-thérapeute, elle a enseigné la psychologie au cégep dans ses débuts de carrière comme psychologue. C'est par la suite qu'elle a découvert l'art-thérapie et qu'elle a été se former comme art-thérapeute à Eagle Rock Trail Art Therapy Institute, qui est en Californie en 1983. Donc, on célèbre cette année sa 40e anniversaire de pratique en tant qu'art-thérapeute. Elle est l'auteur de plusieurs articles et de livres en art-thérapie, dont les thèmes suivants, les titres suivants. Donc, on a « Rêve, art-thérapie et guérison », qui a une version anglaise qui s'appelle « Art Therapy, Dreams and Healing ». Elle a aussi écrit et collaboré sur le livre « Art-thérapie, mettre des mots sur les mots et des couleurs sur les douleurs ». Elle a fait le livre « Somatic Art Therapy », qui est la version anglaise de l'art-thérapie somatique. Et il y en a un tout dernier qui s'appelle « Dreams and Nightmares in Art Therapy » qui se cherche encore un éditeur en français. Donc, c'est vraiment pendant toute sa carrière qu'elle a œuvré à la promotion de l'art-thérapie au Québec en collaborant à la création de formations professionnelles rigoureuses en art-thérapie. Et on peut dire que c'est mission accomplie parce que maintenant, l'UQAT célèbre cette année la 11e année d'existence de la maîtrise en art-thérapie. Elle a œuvré aussi pendant 20 ans à plusieurs postes au sein de notre association professionnelle, la ATQ. Donc, à l'âge où plusieurs sont à la retraite depuis un certain moment déjà, notre invitée, elle, est encore bien active sur le plan professionnel. Je la décrirais d'inspirante, passionnée et j'oserais dire infatigable. Parce que encore aujourd'hui, elle travaille en art-thérapie à donner des formations au Costa Rica, en Thaïlande et aussi en pratique privée. Donc là, si vous ne l'avez pas reconnue encore, roulement de tambour, il s'agit de...
Bonjour Joanne Hamel.
Bonjour à vous deux, Marie-Soleil, Emmanuel.
On est tellement chanceuse de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. On disait justement tantôt que tu es pour nous la maman de l'art thérapie. J'avais comme envie de dire une mère, un océan de connaissances et d'expériences. Donc c'est vraiment, vraiment un honneur et un plaisir. Merci pour ton temps.
Merci beaucoup de m'accueillir à ce podcast. Et puis, ça, c'est un honneur pour moi aussi, c'est certain.
Je sens qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, on sait que Joanne, tu as été une des premières art-thérapeutes francophones formées au Québec. Pourrais-tu nous raconter la petite histoire de ta première rencontre avec l'art-thérapie, ce qui t'a donné envie de pratiquer cette profession?
Bien, ça a commencé parce que après ma maîtrise en psychologie, je suis allée faire une formation en psychothérapie gestaltiste à Montréal avec Louise Noiseux et Ernest Godin. Et dans cette formation-là, qui durait 3-4 ans, je ne me rappelle même plus précisément, on a eu une fin de semaine avec Lorraine Dumont, qui est art-thérapeute de Montréal et qui revenait de la Californie où elle a étudié avec Liane Reinhardt et Paula Engelhorn. En fait, il y avait un institut privé à ce moment-là, mais je ne sais pas si c'était Eagle Rock Trail Art Therapy Institute déjà commencé, mais enfin, elle revenait d'avoir étudié avec eux. Non, en fait, ils enseignaient à Sonoma State University à Rohnert Park, en Californie. Puis après, ils ont commencé l'institut. Mmh. Et bon, Lorraine nous a donné une fin de semaine sur le jeu de sable, entre autres, et puis sur l'art-thérapie. Et après la fin de semaine sur l'art-thérapie, moi, j'ai dit, ben, où c'est que tu as appris ça? Moi, j'y vais. Et je suis allée un an après, de 1981 à 1983.
Ça a été comme un coup de cœur à ce moment-là, ça?
Oui.
Huh. Wow. Oui.
Mais j'avais eu un petit atelier d'art quand j'étais au secondaire chez mes parents. Il y avait une pièce à l'arrière de l'appartement où je m'étais construit un petit atelier, là. Puis je me suis rappelée de ça quand j'ai vu la fin de semaine avec Lorraine, parce que j'avais complètement oublié, après mon cégep université où j'étudiais en psychologie, j'avais complètement oublié ça, mais c'était dans mes gènes, je pense.
Ah, c'est une belle anecdote!
Ouais.
Oui! Comme des moments marquants plutôt qui ont peut-être inspiré dans le parcours, puis on réalise un peu plus tard. Ah ben ça, peut-être que... On a regardé aussi, ben, dans nos recherches, on a remarqué que ben, tu es allée beaucoup plus loin dans ta démarche que seulement pratiquer l'art thérapie. On a vu que tu es la première art thérapeute à avoir été formée en français au Québec, donc ce qui a mené la création du programme à l'UQAT. Et je me demandais, qu'est-ce qui a déclenché en toi le désir de transmettre le métier? Peux-tu nous parler un peu de la création du programme à l'UQAT?
Oui, certainement. D'abord, j'avais l'enseignement dans le sang, si on peut dire, parce que j'enseignais 14 ans la psychologie au cégep de Sherbrooke avant d'aller étudier. Ben, en fait, je suis allée étudier au milieu de ces années-là. Je suis revenue de Californie, puis j'ai encore enseigné à temps partiel au cégep pendant 6 ans, mais j'enseignais de moins en moins, puis un jour, je me suis dit, bon, là, il faut que je parte, là, je n'enseigne quasiment plus. Donc, je suis partie, j'ai commencé ma pratique privée, puis je m'intéressais beaucoup aux rêves déjà. J'avais fait une petite formation sur les rêves de 2 ans avec quelques étudiantes. Et après, j'ai eu un rêve où... j'avais 2 couronnes.
Mmh.
Puis là, j'ai travaillé ce rêve-là. C'est quoi ça?
Uh-huh.
Puis là, je me suis aperçue que la première, c'était la formation sur les rêves. Et la deuxième, ben, c'était une formation en art-thérapie que je voulais offrir. Donc, je me suis mis à travailler avec Lorraine, justement, pour monter le programme. Je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de ce que j'ai fait en Californie, mais j'ai aussi rajouté certains éléments. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, en fait pendant 10 ans, mais les 2 premières années, j'ai rencontré Louise Poirier-Magasuba, qui enseignait à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à ce moment-là. Mm. Et l'UQAT se cherchait un programme pour autour de la créativité pour différentes raisons. Mm. Et Louise, elle est venue dans un atelier que j'ai donné au Costa Rica, sur les rêves, justement. Puis, à la fin de l'atelier, elle me dit, ben, est-ce que tu viendrais enseigner en Abitibi si on t'offrait de venir enseigner? Ben, j'ai dit oui, tout de suite, ce qui a été très surprenant pour elle. Mais moi, je venais d'Abitibi, ce qu'elle ne savait pas. Alors, c'était comme redonné à ma région. Et puis, on a commencé janvier 1997 et on a eu immédiatement 2 groupes 40 personnes qui ont suivi Introduction à l'art thérapie. Rapidement, on a développé les 5 cours du micro-programme et on a tout de suite, même dans le premier cours, on a fait un sondage auprès des étudiants. Si on développait une maîtrise, seriez-vous intéressés? On a eu 20 personnes intéressées. Donc, on est parti avec ça. D'abord, le micro-programme. Ensuite, on a fait le DESS pendant quelques années, qui était de 30 crédits. Et puis, on a complété après avec la maîtrise qu'on a obtenue en 2011, finalement.
Ça a été tout qu'un processus, en fait, hein, de création, de partir du début. J'avais entendu dans une entrevue que tu as donnée, là, sur un petit vidéo qui est sur ton site web, qu'au départ, ça s'appelait l'Institut de formation professionnelle en psychologie par l'art.
En psychothérapie par l'art, mon institut.
Oui. Donc, c'est ça. C'était ton initiative personnelle, on peut dire, au début.
Oui, l'Institut, c'est moi qui l'ai développé. Puis après, vu que Louise était intéressée, m'avait demandé si j'étais intéressée à venir enseigner à l'université. Ben là, on a développé tout le programme de l'UQAM. J'ai continué pendant 8 ans après, là, jusqu'en 2000. J'ai continué mon institut parce qu'il y a des étudiants qui n'avaient pas terminé. Mais après, j'ai arrêté l'institut parce que là, j'avais l'institut, j'avais l'UQAM, j'avais la pratique privée. Pendant un bout de temps, j'avais tout ça en même temps. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté l'institut, là. C'était trop.
Avec raison. Ouais. Puis tout ça s'est fait en parallèle d'une formation qui était aussi en train d'émerger en anglais à Concordia, je présume?
Non, Concordia, il avait commencé avant.
OK.
Ils avaient commencé... plusieurs années, 1982, je pense. Mmh. Oui, je pense que c'est 1980 ou 1982. Là, il faudrait demander à Concordia.
Ce sera un autre podcast, d'ailleurs, c'est ça. Mais justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant comme francophone, comme art-thérapeute. Moi, j'avais la chance d'être bilingue, mais je sais que c'est pas du tout le cas de tous les art-thérapeutes des gens qui désiraient étudier en art-thérapie au Québec. Il n'existait pas de formation en français à cette époque-là.
Non, c'est ça, pas du tout.
Donc, ça venait vraiment répondre à un besoin et probablement un intérêt émergent pour l'art-thérapie au Québec, vu que Concordia était justement, il y avait une petite longueur d'avance, existait déjà. Peut-être qu'il y a plein de francophones qui se disaient « je veux étudier l'art-thérapie, mais j'ai aucune option finalement ».
Visiblement, puisqu'il y a eu une quarantaine d'inscriptions.
En Abitibi, c'est à Rouen, ça qu'on donnait cette formation-là.
C'est incroyable.
Là. Oui.
Et ça a changé depuis. Maintenant, vous offrez la formation.
Maintenant, on est à Montréal aussi. Mais avant d'aller à Montréal, moi, j'avais développé le programme ici à Sherbrooke parce que j'étais à Sherbrooke, puis ça me permettait de moins voyager en Abitibi. Il y a une année où je suis allée 11 fois là, pour développer le programme là-bas. Puis donc Sherbrooke et aussi Gatineau. Il y avait Diane Ranger qui, elle, a développé à Gatineau. Et puis, depuis quelques années, là, ça fait 5-6 ans, là, l'université a décidé de tout rassembler à Montréal. Mais ils donnent aussi parfois des cours à Rouen encore pour les gens intéressés à continuer de l'Abitibi.
L'école d'été, je crois, aussi.
Il y a l'école d'été aussi, où ils donnent des cours en mai-juin, en intensif.
Merveilleux.
J'ai juste une petite question qui me vient en tête spontanément. Je me demandais si c'était quelque chose qui avait déjà été envisagé d'avoir un cours d'introduction à l'art-thérapie au cégep, comme pour amener la curiosité ou répondre à des questionnements face au parcours. Je me demandais, si on parlait de création de programme, je me demandais si c'est quelque chose qui avait déjà été fait ou pensé.
Pas que je sache. En tout cas, je ne crois pas du tout au cégep de Sherbrooke. Il faut que ça s'insère à l'intérieur d'un programme et probablement que ça soit accepté par l'ensemble des profs comme cours complémentaire, probablement en art ou en psychologie. Mais c'est difficile. Faire entrer un cours d'art-thérapie en psychologie, c'est difficile.
Okay.
Ça a toujours été difficile. On a essayé à l'Université de Sherbrooke de développer l'art-thérapie. Mm-hmm. Et on avait des bâtons dans les roues par le département de psychologie, mettons. Donc, finalement, ça a été par l'UQAT, département de sciences sociales, puis les profs d'art-thérapie, oui, parce que dans mon contrat de collaboration avec l'UQAT, je devais former les profs qui étaient en sciences sociales et intéressés à devenir art-thérapeute. Et il y en a eu 3-4 qui ont fait toute la formation, en partie à l'Institut, en partie à l'UQAT.
Donc, ça vient vraiment mettre la table et expliquer pourquoi on t'appelle la maman de l'art-thérapie au Québec. C'est pas pour rien qu'on te donne ce titre-là. Tu es vraiment dans les racines de la profession, en tout cas au niveau francophone ici.
Ben oui, parce que quand je suis revenue, il y avait seulement l'aspect anglophone. Toutes les gens qui étaient dans la TQ avaient été formés à Concordia ou certaines aux États-Unis. Moi, j'arrivais des États-Unis, mais francophone quand même. J'avais fait ma formation en anglais, mais c'était clair que je voulais développer des choses. En français, je trouvais que ça manquait justement beaucoup.
Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et on doit te remercier pour ça. Mm. Au nom de tout, toutes les art-thérapeutes francophones qui peuvent si. Pratiquer en français aujourd'hui, c'est en tout cas... Ah, notre histoire serait différente si tu n'avais pas été là, finalement.
Oui, merci beaucoup. Ça fait du bien de l'entendre. J'ai eu un autre rêve il n'y a pas si longtemps, quelques mois. Je ne sais plus à quel propos, mais j'ai... Ben, parce que le rêve, je sais qu'il y avait un lien avec ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie, mais j'ai rêvé que j'avais des hordes et des hordes et des hordes d'art-thérapeutes devant moi. Mmh. Je trouvais ça tellement impressionnant. C'est comme si je voyais tout ce qui se développait là, au niveau francophone au Québec.
Wow!
C'est-à-dire des ordres professionnels?
Des ordres, H-O-R-D-E-S. Ah.
Donc des mais troupeaux,
oui.
là.
Ah oui, c'est ça. Mais l'ordre professionnel, oui. ça c'est une autre question okay. importante.
Wow!
Sur laquelle j'ai travaillé de oui. nombreuses années sans jamais oui. encore réussir à ce que ça se développe, mais c'est en train, là. Il y a de la relève pour travailler là-dessus. Moi, j'ai arrêté il y a quelques années.
Mm-hmm. Peux-tu nous en parler un peu de cette implication-là? C'est quand même une partie importante de ta pratique, en tout cas de tes implications comme art-thérapeute, oui. Tes 20 années à l'Association des art-thérapeutes, la création d'une formation qui s'est fait connaître petit à petit, mais ça n'a pas été simple, là, de ce que j'en comprends, là, de se tailler une place au Québec. Et on sait aussi avec la loi qui était anciennement appelée la loi 21, la pratique de l'art-thérapie. Dans le cadre de la psychothérapie, c'est compliqué. On va d'ailleurs s'intéresser à ce sujet-là dans un autre épisode, mais... Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ton cheminement, toi, que tu as vu? C'est une question large, hein? On amène le sujet un peu largement, mais je serais intéressée d'en discuter avec toi.
Ben, j'ai travaillé aussi pendant une vingtaine d'années avec José Leclerc et Pierre Plante pour tenter d'obtenir qu'on ait un ordre professionnel, les art-thérapeutes, entre autres sachant après la loi 21 que ça prenait un ordre professionnel pour pratiquer la psychothérapie. On disait bien que ce n'est pas tous les art-thérapeutes qui sont intéressés à pratiquer la psychothérapie, mais que ceux qui le veulent puissent le faire parce qu'on a la formation pour ça. Mm-hmm. C'est clair qu'on est, on a la compétence, les art-thérapeutes ont la compétence pour pratiquer la psychothérapie auprès de toutes sortes de clientèles différentes. Je me rappelle de plusieurs rencontres avec l'Office des professions, avec l'Ordre des psychologues aussi. J'ai travaillé aussi à tout organiser le programme à l'UQAD pour décrire les cours pour que ça corresponde aux normes de formation de l'Ordre des psychologues mm-hmm. pour être psychothérapeute. Ça avait été accepté d'ailleurs que les gens qui présentaient ces cours-là avec des superviseurs qui étaient reconnus psychothérapeutes pouvaient, s'ils faisaient partie d'un ordre, ils pouvaient être reconnus psychothérapeutes, que la formation donnait accès à ça, mais il fallait d'abord faire partie soi-même d'un ordre, mm-hmm. puis c'est pas tous les étudiants.
Mm-hmm. Il y a eu la clause grand-père aussi d'ailleurs qui permettait...
Il y a eu la clause grand-père, oui.
À ces étudiants-là, oui. avant une certaine date, je crois que c'est en 2012.
Oui, les gens qui pratiquaient avant 2012, je pense, pouvaient avoir bénéficié de la clause grand-père comme art-thérapeute, être reconnu mm-hmm. psychothérapeute. Mais c'était un long combat, un long processus. Maintenant, ce que Nancy Couture de l'UQAD fait et d'autres, c'est de... Ils ont réuni les art-thérapeutes de tous les arts différents, finalement. La dramathérapie, la musicothérapie, bien sûr l'art-thérapie, et puis danse-thérapie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Photothérapie, je ne pense pas.
Pas encore.
Pas encore.
Peut-être un jour.
Pratiquant. Donc, ils ont réuni des représentants de tous ces ordres-là, des étudiants et des gens formés de tous ces ordres-là. Dans un nouvel organisme, et on peut à ce moment-là être plus fort pour demander la création d'un ordre des thérapeutes par les arts. Donc, c'est ça qui est en train de se faire là, en ce moment-ci, là, de développer un code d'éthique, développer
code d'éthique principalement pour pouvoir avoir accès à un ordre professionnel, là. Des thérapeutes par les arts. Et ça permettrait à ceux qui le veulent d'avoir leur propre ordre et donc de devenir reconnus à la psychothérapie.
De pouvoir au moins avoir accès au permis de psychothérapie.
Au permis de psychothérapie.
C'est ça.
Oui. Et dans le contexte où il y a tellement besoin de psychothérapeutes actuellement, il manque d'intervenants. Les psychologues, vu que ils ont à faire un doctorat. Souvent, ce n'est pas de la pratique clinique qu'ils font maintenant, c'est de la recherche. Mm-hmm. Ils sont peu formés pour faire de la psychothérapie, finalement. En tout cas, pas tout le monde, vraiment, de moins en moins, en fait. Donc, il manque beaucoup, beaucoup d'intervenants dans le réseau de la santé. Et nous, on est là, puis on demande à être reconnus. On a la formation pour, on a la compétence pour. Donc, ça serait vraiment... Ça fait partie de la dernière question que vous allez me poser. Là, c'est qu'est-ce que je souhaiterais qu'il se passe pour les art-thérapeutes? Ben, ça en est un aspect. Là. Mm-hmm.
C'est tout un combat, puis je trouve que ça fait du bien de l'entendre. T'sais, moi, ça fait 8 ans que j'ai gradué, puis ça fait du bien de l'entendre que les art-thérapeutes sont formés, on a le droit de faire ce qu'on fait et il y a un besoin, visiblement. Donc, ça fait du bien de l'entendre de toi, Joanne.
Absolument.
C'est une des raisons d'être de ce podcast-là, d'ailleurs, de se rappeler notre force comme art-thérapeute, notre couleur, notre droit de pratiquer, d'exister. Mm-hmm. C'est un peu ce qui est une des motivations, en tout cas, qui nous anime, hein, Marcelle et moi.
Mm-hmm. 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 Mais avec raison. Mm-mm. Ça doit être dit.
Oui, il y a des choses qui doivent être dites. Merci en tout cas d'en faire partie aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Oui, on veut vraiment donner la voix aux art-thérapeutes. On écoute souvent, hein, comme art-thérapeute, on est en position d'écoute. Puis là, ben, je pense qu'on veut aussi parler. On a des choses à dire.
Absolument.
Moi, j'ai envie de parler un petit peu de ta pratique. Joanne, t'a évoqué un petit peu plus tôt dans l'entrevue de ton approche avec le travail des rêves.
Oui.
Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, que j'ai pas eu la chance d'explorer, que ce soit dans ma formation ou très peu, du moins, là, et aussi dans ma pratique comme art-thérapeute. Je suis intéressée à savoir... comment tu abordes ce thème-là en art-thérapie, là, que ce soit en individuel ou en groupe, là, quand quelqu'un arrive avec un rêve? Là.
Bien, comme je suis art-thérapeute, je vais proposer de dessiner une des scènes du rêve. J'ai souvent proposé de dessiner ce que j'appelle la scène primordiale. La scène primordiale, c'est la scène par laquelle on se rappelle un rêve. Parce que quand on pense à un rêve qu'on a fait, c'est pas avec des mots, c'est pas un titre qu'on se rappelle, c'est une image qui nous rappelle le rêve. Alors souvent, je vais proposer, quand quelqu'un me dit « j'ai rêvé », de dessiner cette scène-là. Mais ça peut être aussi une autre scène qui est plus frappante ou plus dérangeante. Et à partir de ça, on va travailler avec la gestalt ou avec le dialogue jungien pour parler avec les personnages ou pour s'identifier de façon à la gestalt, pour voir qu'est-ce que ce rêve-là est venu me révéler. Parce que pour moi, il y a toujours un message existentiel dans un rêve. Donc, j'adore ça quand les gens amènent un rêve en thérapie, parce qu'on va tout le temps toucher à l'essentiel de ce qui se passe en ce moment dans la psyché de la personne. Donc, je le dis quand je rencontre des nouvelles personnes, que je travaille avec les rêves, puis de ne pas se gêner pour en apporter. Il y a des gens même qui viennent en thérapie en me disant « moi, je veux travailler mes rêves ». Ça arrive maintenant de plus en plus. Puis c'est ça, je trouve que c'est tellement efficace. Puis le rêve, c'est Freud le disait, c'est la voie royale à l'inconscient. Mettre ça avec le dessin, avec la peinture, qui est aussi une voie royale à l'inconscient, c'est vraiment très, très puissant. Donc, on va directement dans qu'est-ce qui est à travailler ou qu'est-ce qui a besoin de se dire quand on travaille un rêve. En groupe, c'est la même chose. Spécifiquement, les gens viennent quand c'est spécifiquement des groupes sur les rêves. J'en offre presque à chaque année au Costa Rica. J'en offre un en avril là, avec Anne-Marie Jobin. Ça s'appelle Art Thérapie, Journal Créatif et Rêve. J'aime beaucoup travailler sur les rêves en groupe. Là, c'est tellement riche. On procède de la même façon. On les dessine.
Avec Anne-Marie, on va utiliser les différents langages qu'elle utilise, là, le collage, la peinture, le dessin, l'écriture. Alors, j'en fais le plus souvent que je peux.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens? Moi, j'entends souvent ça. Moi, je rêve pas ou je me rappelle pas de mes rêves.
Ah, ben j'ai toutes sortes de trucs pour s'en rappeler.
Est-ce qu'on peut en avoir?
Ah oui!
Bon, alors, le plus important, c'est de faire sonner son cadran 15 minutes avant le moment où on sait qu'on doit se lever. Et de ne pas penser à ce qu'on doit faire dans la journée, les préoccupations, de juste être présent à comment je me réveille, dans quel état, avec quelle sensation, avec quelle émotion, même si c'est très, très vague, de rester présent à ça. Et là, les rêves vont revenir en sens inverse de comment on les a rêvés. Donc, on se rappelle la fin du dernier rêve, après ça, le rêve, le début, après ça, le rêve d'avant, et ainsi de suite, jusqu'au début de la nuit. On peut aussi changer de position parce qu'on se rappelle mieux des rêves dans la position dans laquelle on les a rêvés. Donc, si on sait qu'on dort dans différentes positions, on peut changer de position. Puis, c'est très frappant, ça arrive comme une bulle qui remonte quand on change de position tout à coup. Donc, ça, c'est une possibilité. Je conseille aussi aux gens d'avoir un carnet et un crayon à côté d'eux. Et quand ils se réveillent un peu, là, pas nécessairement beaucoup, mais être dans un demi-sommeil, suite à un rêve, ben, ils écrivent quelques mots. Ils vont les retrouver écrits tout croche, peut-être le lendemain dans le cahier, mais ça fait souvent qu'on s'en rappelle. On n'a même pas besoin d'ouvrir une lumière, surtout s'il y a quelqu'un d'autre qui dort avec nous. On fait juste écrire quelques mots, puis souvent c'est suffisant. Aussi, si ça ne marche toujours pas, ben, on peut inventer un rêve le matin avec dans quel état on se réveille. Et là, finalement, l'inconscient va dire, « Ben là, tu as vraiment l'air à vouloir que je te révèle des choses, fait que je vais t'en apporter des rêves. » Si on en invente, c'est comme là, c'est comme si l'inconscient comprend que on est sérieux, là. Tant qu'en inventer, il va nous en donner.
La conversation qu'on peut avoir avec notre inconscient.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est comme de se donner une intention avant de se coucher pour peut-être laisser venir plus facilement?
Ben absolument. Ça, c'est l'incubation du rêve. On peut se donner une phrase brève et claire. Demain matin au réveil, je me rappelle de mes rêves. On peut aussi incuber toutes sortes de choses, toutes sortes d'intentions. Cette nuit, dans mes rêves, je vole. Cette nuit, je fais un rêve lucide, c'est-à-dire que je fais un rêve où je sais que je suis en train de rêver. Cette nuit, dans mes rêves, je vais visiter l'Italie ou n'importe quoi.
Ça peut devenir presque un outil de croissance personnelle, finalement, pour nous accompagner dans notre cheminement, où est-ce qu'on en est dans notre vie.
Mais c'est un des principaux outils de croissance personnelle qu'on peut développer par soi-même. Et moi, j'ai toujours à cœur que les gens puissent avoir des outils qu'ils puissent utiliser par eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai écrit mes livres sur les rêves, entre autres. Aussi, à l'époque, quand j'ai écrit le premier livre sur les rêves, il y avait juste des dictionnaires de rêves. Ça, je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Alors, j'ai voulu donner aux gens des moyens de trouver par eux-mêmes la signification de leurs rêves.
Moyen très concret d'ailleurs, merci beaucoup. J'en prends note là, de certains. Le changement de position dans le lit, je trouve ça très intéressant, comme de se fier à la mémoire du corps.
Oui, exactement.
Ben, en tout cas, à vos calepins tout le monde, si vous voulez savoir un peu plus sur vos rêves, on a des bons trucs.
Et puis écrire un journal de rêves, parce que ça montre à l'inconscient qu'on valorise ce qu'il nous apporte. Et c'est de montrer de l'intérêt dans nos gestes qui va faire qu'on va développer ça de plus en plus, qu'on va avoir de plus en plus de mémoire, puis qu'on va les utiliser de plus en plus et apprendre toutes sortes de choses, parce qu'il y a toujours un message, un message existentiel sur ce qui se passe pour nous dans l'inconscient, préconscient.
J'ai l'impression que beaucoup de gens qui me disent des fois, oh, moi je me rappelle pas de mes rêves, ou... peut-être qu'il y a un peu une espèce de préconception que c'est pas important, justement, ou que, ah, c'est banal, ah, j'ai rêvé à ça parce que j'ai fait ça hier, ou... Alors, peut-être que cette cette méconnaissance ou préjugé par rapport aux rêves, finalement, on n'est pas très éduqué sur notre vie onirique.
Non, et sur la vie psychique en général non plus.
C'est un fait, ouais.
Les gens sont, sont pas conscients, effectivement, de toute la richesse qu'il y a dans les rêves. Et puis, c'est souvent perçu comme pas sérieux. Ça vaut pas la peine de travailler là-dessus en thérapie, c'est pas sérieux. Mais au contraire, c'est un des outils les plus puissants que je connaisse. Oui. Si on a rêvé à ce qu'on a vu dans un film qu'on a vu la veille, on a quand même pas, dans notre rêve, sélectionné toutes les images du rêve. On a sélectionné certaines. L'inconscient en a sélectionné certaines parce qu'elles sont significatives, qu'elles se rapportent à quelque chose qui nous touche personnellement. Donc, c'est pas juste « Ah, ben j'ai vu ce rêve-là, j'ai vu ce film-là, c'est pour ça que je rêve à ça. » Une petite partie superficielle d'explication, mais il y a bien autre chose.
On parle de la place du rêve dans ton travail, puis j'avais une question pour toi, j'étais curieuse de savoir un peu plus sur la place, comment s'intègre le processus, ta pratique centrée sur le processus dans ta pratique, comment est-ce que ça s'intègre, ce serait quoi, comment est-ce que ça se définit en art-thérapie?
L'approche par le processus, comment ça se définit? C'est difficile à définir. Je décrirais comment je fonctionne, dans le fond.
Oui, c'est que, vas-y.
Typiquement, dans une entrevue, on va parler 10 minutes, 15 minutes maximum sur qu'est-ce qui est présent. Et puis, à partir de ça, je vais proposer une consigne pour explorer un ressenti, un événement. On fait un premier dessin et ça peut amener à ce que je propose d'explorer davantage une ligne, une forme, une couleur qui est dans le dessin. Le processus, ça veut dire qu'on s'intéresse à la pré-image, à ce qui arrive avant l'image finie. Donc la ligne, la forme, la couleur qui porte autant d'informations, sinon des fois plus que l'image finie. Donc on va amplifier, répéter une ligne, une forme, une couleur. Des fois, je vais demander d'amplifier une forme, de la faire beaucoup plus grosse sur une autre feuille, puis on va regarder à l'intérieur qu'est-ce qui émerge spontanément comme image qui est cachée dans cette forme-là. On va suivre une ligne. Je me rappelle d'avoir fait des dessins où je suivais une ligne qui... Ça avait fait tout le bureau, là. J'en reviens au micro, qui s'est tout le ligne qui a suivi tout le plancher du bureau, puis finalement est arrivé à quelque chose qui un message qui était de revenir à soi. Je suis ce qui se développe. Je suis sur le papier, j'amplifie ce qui est le plus visible, le plus clair, le plus prégnant. Et je vois où est-ce que ça mène.
Est-ce que ce serait comme avant même que ça devienne figuratif ou intellectualisé? On est vraiment dans la forme de base ou dans plus dans l'abstrait, dans l'essence des... Est-ce que ce serait ça?
Plus ou moins, parce que ça ne devient pas nécessairement figuratif. Moi, souvent, les gens partent après quelques années de thérapie puis ils ont un paquet de gribouillis. Souvent. Pas toujours, mais souvent, un paquet de gribouillis ou un paquet de barbeaux, un paquet de lignes de forme, de couleurs, qui, quand on les regarde, ont beaucoup de sens pour eux, mais ce n'est pas nécessairement devenu figuratif, parce que dans mon approche, ce n'est pas la création artistique ou la création d'une image finie qui est importante. Mais c'est pas tous les art-thérapeutes qui fonctionnent comme ça, mais ça définit bien l'approche par le processus. Là, c'est vraiment d'amplifier les éléments figuratifs qui sont là, de regarder la pré-image. Puis essentiellement, on arrive à clarifier ce qui veut se dire en suivant les lignes, les formes ou les couleurs, en les amplifiant. Et souvent, ça mène à une résolution ou une clarification.
On est vraiment dans le mouvement, hein, je pense.
C'est ça, dans le mouvement qui est plus lié à la ligne, mais c'est le mouvement du processus. En même temps, c'est le mouvement de ce qui se passe dans la psyché. Il y a quelque chose qui se clarifie,
qui se vit, qui se ressent. Souvent, les gens vont avoir des émotions intenses. Mm-hmm. Si d'ailleurs il n'y a aucune émotion, on n'est pas dans la thérapie, on est dans raconter, ce qui n'est pas nécessairement thérapeutique. Mm-hmm. Et je ne dirais pas que ça amène à quelque chose d'intellectuel, ça amène à un ressenti ou une expérience vécue qui clarifie ce qui est en train de se passer pour nous. On met des mots. Mm-hmm. On met des mots pour dire « je comprends ce que ça me dit, mais ce n'est pas au niveau rationnel pour moi ».
Oui, je comprends, je comprends. Puis, ouais, c'est vraiment intéressant parce que je posais la question par rapport à l'image figurative parce que souvent, je vois des gens qui disent j'ai quelque chose en tête, je veux le dessiner. Oui. Ou qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui? Mm-hmm. Comme s'il y avait comme un but à atteindre, un but visible, tangible. Mais de t'entendre parler, on parle plus, on n'est pas dans le résultat, là. On est vraiment dans le mouvement qui respire et qui se transforme, oui. Et la psyché qui bouge aussi avec exact. Cette image-là qui évolue. Donc, oui, je trouve ça vraiment très intéressant. Puis ça me mène aussi à te poser la question sur, on en parlait un peu tantôt, mais ton outil de thérapie par le jeu de sable, comment est-ce que ça s'intègre dans ta pratique? Et comment est-ce que... est-ce que ça a été... est-ce que c'est une formation que tu as suivie? Comment est-ce que... je pose la question parce que de mon côté, j'ai essayé de m'inscrire à la formation, puis j'ai trouvé ça difficile. En fait, c'était pas possible parce que je ne fais pas partie d'un ordre professionnel. Donc, encore une fois, des bâtons dans les roues, mm-hmm. mais c'est ça, je voulais comme un peu en parler avec toi.
Oui. Bien, comment ça s'intègre dans ma pratique? C'est comme le rêve. Dans le fond, c'est que je dis aux gens que c'est un outil qui est disponible au bureau. Et que s'ils ont le goût d'utiliser cet outil-là, qu'ils me le disent, et puis on va tout simplement passer l'entrevue avec le jeu de sable. Parfois, je vais le suggérer, mais c'est plus souvent quand la personne l'amène elle-même. J'ai eu une cliente aussi, à un moment donné, qui était comme limite au niveau intellectuel, et il y avait plus de choses qui se disaient en utilisant le jeu de sable que même en dessinant ou évidemment par la parole. Alors là, c'était une clientèle privilégiée avec laquelle je l'ai utilisée.
Excuse-moi de t'interrompre, juste pour nos auditeurs qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble un jeu de sable, on pourrait peut-être leur décrire.
Oui.
C'est quoi un jeu de sable?
Oui.
Avant qu'on décrive l'approche.
Oui. Ben, en fait, oui, effectivement. C'est un bac de bois de certaines dimensions, donc que je ne me rappelle plus par cœur, mais...
qui est prédéfini.
Qui est prédéfini, qui est peint en bleu dans le fond, qui est rempli de sable, souvent qu'on retrouve sur les plages, là, du sable blond, mais j'ai aussi des bacs de sable noir... de Saint-Jean-Port-Joli, où il est en dessous, là, tu peux pas le voir. Et puis, puis on a beaucoup de miniatures. Des miniatures des personnages, des maisons, des moyens de transport, des animaux domestiques ou sauvages, puis toutes sortes d'objets divers. Et on invite la personne à créer une scène dans ce bac de sable. Elle peut d'abord jouer dans le sable, puis déplacer le sable pour faire des montagnes, des rivières, ce qu'elle veut. Et ensuite, ben, on place les personnages. Et dans mon approche à moi, qui est aussi l'approche par le processus, les personnages, il y a un personnage qui représente la personne, qui va aller rencontrer les autres objets et leur parler, faire un dialogue, s'y identifier parfois. Ensuite, on va déplacer. Il y a des personnages ou des objets qu'on va enlever du jeu de sable. On en a d'autres qu'on va aller rechercher pour compléter le jeu de sable. Donc, c'est vraiment aussi l'approche par le processus. Ça, j'ai appris ça dans ma formation en art-thérapie à Eagle Rock Trail Art Therapy Institute en Californie. J'ai fait, je ne sais plus combien d'heures, mais au moins 15 heures, peut-être plus. Certainement en plus parce que j'ai eu une partie de thérapie aussi où on utilisait spécifiquement le jeu de sable dans cette formation-là. Parce qu'il y avait une partie de 40 heures de thérapie par année.
Donc, des thérapies que tu suivais pour toi-même.
Oui. Et ça faisait partie de la formation, on devait faire ça.
Super.
Donc, toutes ces heures-là, j'ai voulu, moi, les faire reconnaître auprès de... l'organisme qui donnait la formation sur le jeu de sable, et ils ont refusé parce que c'était pas la même approche. Alors, je suis partie. J'avais commencé à faire quelques cours et j'ai décidé que ça n'était pas acceptable de ne pas reconnaître la formation que moi j'avais eue, d'autant plus que je l'ai donnée dans le cours Imaginaire en art-thérapie à l'UQAT et qu'il y a des étudiants qui ont développé cet organisme-là. Et ils ne voulaient pas me reconnaître après. Mm-hmm. Ils ont appris ça dans les cours que je donnais. Mais non, je n'étais pas suffisamment formée. Alors moi, je trouvais ça inacceptable. Donc, je n'ai pas continué cette formation-là, ce qui ne m'empêche pas de l'utiliser, soit à la façon jungienne qui est développée par cet organisme-là, ou soit à la façon gestaltiste, plus l'approche par le processus. Mm-hmm. Et je pense que c'est un complément à n'importe quel art-thérapeute et que tous les art-thérapeutes devraient pouvoir... peuvent utiliser le jeu de sort. Mm-hmm. Il suffit d'avoir une certaine expérience soi-même pour mieux comprendre le processus, puis avoir les choses qui... le bac de sable, les miniatures et...
D'ailleurs, ça me fait penser, la formation à Concordia que Marie-Soleil et moi on a suivi, elle offrait le cours thérapie par le jeu de sable comme cours complémentaire. Donc, ça faisait partie des choix de cours qu'on pouvait choisir. Et c'est un cours quand même de 30 crédits.
Il y a 3 crédits.
3 heures, oui.
Mais c'est 33 heures de formation.
33 heures de formation qu'on a suivi. Mm-hmm. Ça faisait partie de notre formation. Et puis, Marie-Soleil, c'est ça qu'elle...
Exactement. Donc, en appliquant pour cette formation-là, ces heures-là n'ont pas été reconnues. On m'informait qu'il fallait être membre d'un autre professionnel ou d'être encadré par une organisation qui permet de pratiquer la thérapie par le jeu de sable. Donc, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça.
À mon avis, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas éthique d'exiger ça non plus parce que c'est pas un ordre professionnel, c'est de quel droit on exige de faire partie de cet organisme-là pour utiliser le jeu de sable quand on est formé à l'art-thérapie, qu'on sait travailler avec l'imaginaire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mm-hmm.
Mm. C'est pas un acte réservé.
C'est pas un acte réservé, non.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ça fait du bien de l'entendre. Moi, de mon côté, ça fait des années que je me construis une superbe collection avec un bac et maintenant j'étais prête pour la formation et on me dit ça, je me dis « Ah non, je peux pas utiliser ce que j'ai mis en place », mais ce que j'entends, c'est que oui, quand même, on peut l'utiliser.
Absolument, parce que on sait comment travailler avec l'imaginaire puis avec la psyché quand on est en thérapeute, c'est ça que ça prend, en fait. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et on connaît justement nos précautions, on connaît le pouvoir de l'imaginaire, tu sais, je peux comprendre que ce soit une formation qui est encadrée pour des gens qui n'auraient pas les bases.
Exactement, qui n'auraient pas de formation en thérapie ou en psychologie.
Donc, de faire attention de ne pas utiliser cet outil-là de façon maladroite qui pourrait avoir des impacts négatifs chez nos clients. Mais là, c'est ça, il y a comme deux poids, deux mesures à un moment donné, hein.
Oui.
Un silence bien mérité.
Oui, une réflexion à avoir.
Mm-hmm. On irait tranquillement vers la conclusion de cette première partie d'entrevue. Et on avait envie de te poser quelques questions pour nous donner un peu un survol de ta carrière, parce que là, on a parlé beaucoup de ton approche, de ce que tu as développé au niveau de la formation, mais nécessairement, tu as eu de l'expérience avec toutes sortes de clientèles, de populations, de problématiques différentes dont on n'a pas touché. Donc, la question que je vais te poser est comme en plusieurs volets. Donc, c'est comme une rétrospective sur tes 40 dernières années de carrière, une carrière qui n'est pas terminée encore, d'ailleurs. Je pense à te voir aller, c'est pas fini. Donc, en rétrospective de tes 40 années de carrière de pratique en art-thérapie, quelle est l'expérience dont tu es la plus fière? Puis tu peux prendre le temps de réfléchir, hein, quand même.
C'est probablement d'avoir développé les formations, mm-hmm. autant à l'Institut de formation professionnelle en psychothérapie par l'art que j'ai fait à Sherbrooke en privé, qu'à l'UQAT, parce que ça a ouvert le milieu de l'art-thérapie au Québec énormément. Alors ça, oui, je dirais certainement que c'est ce que je suis le plus fière d'avoir
d'avoir mis, sur lequel j'ai mis mon énergie. Oui.
Mm-hmm. Mm. Effectivement, un gros, une grande réalisation. J'étais curieuse de savoir quelle a été la... Là, je dis la clientèle, mais ça pourrait être le type de client ou même un client particulier en gardant anonyme, bien entendu, là. Donc, ce serait quelle clientèle qui t'a le plus marqué?
Il faut dire que j'ai travaillé, moi, avec des adultes seulement. J'ai pas travaillé avec les enfants ou les adolescents.
Mm-hmm.
J'ai travaillé toutes sortes de thématiques, là, les séparations, divorce, anxiété, angoisse, épuisement professionnel, la psychosomatique beaucoup, avec leur thérapie somatique, les relations interpersonnelles, dépression, il y en a sûrement d'autres, là.
Mm-hmm.
Mais je dirais que ce qui m'a le plus marqué... En voyant cette question-là, ce qui m'est revenu, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé avec des parents qui avaient perdu un enfant.
Mm.
Et à un moment donné, j'en avais trois en même temps dans ma pratique. Mm. Et je ne dormais plus.
Aïe.
J'avais des jeunes enfants, moi aussi d'ailleurs.
Mm.
Donc, je me souviens que je m'étais dit à ce moment-là, pas plus qu'un parent qui a perdu un enfant à la fois.
Mm.
C'était trop. C'était mm-hmm. trop difficile. C'est l'expérience la plus souffrante qu'on peut avoir, je pense. Enfin, il y en a beaucoup d'expériences souffrantes. Mm-hmm. Certainement que les traumas, c'est certainement des expériences extrêmement souffrantes, mais celle-là, en tout cas, qui fait partie des traumas,
mm-hmm.
je dirais que c'est pas mal ça qui m'a le plus marqué.
Mm. Et quel travail hein, d'accompagner ces parents-là à travers ce deuil-là. Puis moi, ça fait juste me rappeler l'importance de reconnaître nos limites, puis à quel point c'est pas si simple, hein, avant de l'avoir rencontré
mm-hmm.
pour une première fois, cette limite-là. Des fois, on n'est pas au courant qu'elle existe.
Exactement. Ça m'est arrivé de refuser des clients parce que je voyais qu'à cause de raisons personnelles, je pouvais pas bien les accompagner.
Mm-hmm.
Ça arrive. C'est important, mm-hmm. effectivement, de nommer, reconnaître ses limites, absolument.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et dernière question, rétrospective de carrière. Donc, dans cette rétrospective-là, quelle est l'expérience la plus inusitée, là, tu sais, qui sort de l'ordinaire, que tu dis « Mon Dieu, j'ai fait ça!
» J'ai fait ça aussi. Telle chose m'est arrivée, parce que c'est pour ça qui me revient. Mm-hmm. J'en parle dans mon dernier livre, là, « Dreams and Nightmares in Art Therapy, The Dream of the Jaguar », en sous-titre.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, le rêve du jaguar qui m'a le plus marqué. Parce que j'étais avec un groupe sur les rêves au Costa Rica, et il y a une participante qui se met à raconter un rêve dans lequel j'étais. Et je ne comprenais pas le rêve, mais les larmes me coulaient.
Mmh.
Je comprenais absolument pas. D'habitude, on ne travaille pas le rêve de quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai dit, ben, je vais le travailler pour moi.
Mmh.
Et le rêve était que dans le rêve, il y avait une de mes anciennes enseignantes en art-thérapie en Californie qui parlait avec moi le langage du jaguar et on se comprenait.
Mmh.
Et je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais quand je l'ai travaillé, il y avait eu un conflit avec cette personne-là. Puis j'étais plus en contact avec cette personne-là qui était très, très importante pour moi.
Mmh.
Et là, dans le rêve, on se comprenait.
Mmh.
Alors, ça m'avait fait beaucoup de bien. Alors, j'avais travaillé son rêve, ce que je dis jamais de faire. Je dis toujours, on ne travaille pas les rêves des autres, c'est leur inconscient.
Mmh.
Mais là, cette fois-là, c'était vraiment, ça s'imposait, puis j'ai trouvé un sens.
Incroyable!
Oui, c'est inusité. En termes d'inusité, d'expérience inusité, là, c'est pas mal ça, la plus inusité qui m'est arrivée.
Ah,
wow.
C'est fascinant. On peut créer du sens, de symboles qui nous appartiennent pas encore, mais qu'on s'approprie une signification. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, inusité.
Oui, et puis le jaguar, c'est un animal totem qui est très, très important pour l'Amérique centrale, où se trouve le Costa Rica. Et puis, c'est devenu
un de mes guides animaux, si on veut, parce que je pense que les guides, les animaux qui viennent souvent dans nos rêves, parce qu'il est revenu aussi souvent dans mes rêves, sont des guides animaux à la façon amérindienne, dans le fond. Alors lui, c'est le plus important. J'ai même une petite veilleuse qui est faite avec l'image du jaguar que mon conjoint a fait pour moi, parce qu'il fait un petit peu de vitrail.
Ah, wow! On a la chance en ce moment d'être dans l'atelier et bureau de Joanne Hamel, donc c'est pour ça qu'on s'exclame, parce qu'on voit ce qu'elle nous pointe, on est avec elle dans son espace de travail.
Oui, c'est vivant. C'est le fun de rencontrer une art-thérapeute dans son espace de travail, je trouve. On a un peu l'essence de ce qui se passe.
Oui.
Les figurines, le sable... Depuis tantôt, là, mes yeux se promènent. Je fouille un peu.
Et les armoires sont pleines.
C'est l'abondance, hein? Ouais. On sent qu'il y a de l'abondance des matériaux ici, là.
Toutes sortes de possibilités.
Oui.
En trois dimensions aussi.
Oui.
On sent bien les possibilités ici. Joanne, l'un des objectifs de notre podcast, c'est de mettre en lumière les ateliers et les activités professionnelles de nos invités. Tu as parlé tantôt du Costa Rica, des ateliers qui s'en venaient. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais mettre en lumière aujourd'hui de ce qui s'en vient pour toi?
Je pense que je vais, aussi longtemps que je peux, retourner au Costa Rica chaque année faire des groupes sur les rêves ou parfois sur les déesses grecques comme symbole. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, puis de temps en temps, je le refais comme symbole des énergies féminines.
Oui, ça fait longtemps. Hein?
Ça fait 30 ans que je vais au Costa Rica, puis que j'ai fait des ateliers presque à chaque année, pas pendant la pandémie, malheureusement, mais bon. Donc ça, j'ai l'intention de continuer. Et puis, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'aller enseigner à Bangkok, à une école privée que Lucille Proulx a développé le programme. Et elle m'a invitée à aller enseigner là. Et puis, ça va faire la sixième ou la septième année, je pense, que j'y vais, là, en octobre prochain. Et ça, j'ai l'intention de continuer ça aussi longtemps que je vais pouvoir aussi, parce que j'adore être en contact avec cette culture-là. Mm. Bangkok, c'est une ville qui n'est pas idéale. C'est-à-dire, c'est très pollué, tout ça. Mais j'adore aller là. Je me promène avec mon conjoint. On se promène partout dans les temples, les journées où je ne travaille pas. On fait des 10-12 kilomètres dans la ville juste pour avoir le plaisir de voir comment les gens vivent. C'est des gens tellement, tellement, tellement gentils aussi. C'est une culture vraiment, vraiment différente. Pas que les Québécois ne sont pas gentils, mais il y a vraiment quelque chose dans la culture de vraiment différent. Puis c'est tellement enrichissant de connaître une autre culture. Je leur donne un cours d'un mois sur la psychopathologie. Je travaille aussi sur les approches, on fait du studio aussi. Et puis, j'ajoute toujours un 6 jours de art comme médecine que je donnais à l'UQAT. Et là, ça me permet d'entrer vraiment dans les problématiques particulières de ce peuple-là.
Mm-hmm.
C'est vraiment... ça me donne un accès incroyable à quelque chose de totalement différent dans lui. Ben, pas totalement différent, mais très différent de ce que nous, on peut vivre comme problématique. Et ça, j'adore ça.
Oh. Wow! Est-ce que c'est la première formation qui existe en art-thérapie en Thaïlande?
Oui, à ma connaissance, structurée, reconnue par la CATA, d'ailleurs, reconnue par la Canadian Art Therapy Association. Il y a d'autres semi-formations qui sont... Je me rappelle plus autour de quoi, mais c'est pas vraiment professionnel, à mon avis.
Mm-hmm.
Puis à l'avis aussi de Dr. Sugun Nabiram, qui est la directrice de l'Institut.
Mm-hmm.
Je sais pas si elle dirait ça elle-même, je sais pas si elle oserait dire ça, mais moi, je le dis en son nom, en tout cas. Mais oui, il commence à y avoir une association professionnelle des art-thérapeutes qui ont été formés à IPAT, International Program of Art Therapy Thailand. Donc, ils sont peut-être une trentaine maintenant, 20, 30, là. Donc, elle aussi, c'est une pionnière de l'art-thérapie, hein? Puis, elle dit que Lucille, c'est la grand-maman de l'art-thérapie en Thaïlande. Et moi, je dis que toi, Dr. Joe, on l'appelle Dr. Joe, toi, t'es la pionnière, t'es la mère. T'es la mère en Thaïlande.
Incroyable. Ouais. Et comment ça s'est fait? En tout cas, peut-être que ça serait une question pour Lucille Proulx qu'on adorerait avoir.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ah, oui.
Mais je me suis toujours demandé pourquoi la Thaïlande, comment c'est arrivé? C'est tellement pas à côté de chez nous.
Ben, ce que j'en sais pas beaucoup, c'est qu'elle est allée travailler pour l'organisme de Red Pencil.
OK. Hein,
qui est un organisme de bénévolat. Et elle a rencontré Dr. Joe qui s'était formé à l'art-thérapie à Boston.
OK.
Et ils ont concocté ce projet. Elle a développé, Lucille aussi, un programme au Japon.
Incroyable,
qui s'est donné pendant plusieurs années, qui maintenant ne se donne plus. Mais oui, Lucille est une femme que je considère mon mentor parce qu'elle a 91 ans, je pense, maintenant, puis elle travaille encore, elle fait toutes sortes de choses, elle est fatigable.
Elle aussi, c'est ça, oui. Ouais. Si tu suis le modèle du mentor, là.
Oui, c'est ça, exactement. J'aimerais bien continuer aussi longtemps qu'elle à faire toutes sortes de choses en art-thérapie.
J'ai remarqué sur ton site qu'il y a une section blog où on peut suivre un peu les activités qui s'en viennent pour toi. Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on peut suivre encore maintenant?
Oui, sauf que j'écris pas souvent. J'écrivais pas souvent. Bien, de temps en temps, je mets quelque chose. Et puis, je garde mon site actif. Je mets certainement les formations qui s'en viennent quand il y en a au Costa Rica. Mais aussi, Anne-Marie Jobin et moi, on donne des cours en ligne d'habitude au mois de mars sur les rêves aussi.
OK.
Art thérapie, journal créatif et rêves. Donc ça, je l'annonce là aussi. Mais ça, c'est plus les annonces, là, mais j'en parle dans blogs quand même.
Donc, c'est bon à savoir pour les auditeurs qui auraient eu peut-être un petit déclic avec notre conversation sur l'utilisation des rêves en art-thérapie. Si vous avez un intérêt en particulier, allez sur le site web de Johanna Mel pour retrouver les informations pour faire cette formation-là qui aura lieu en mars 2024.
Oui. OK. Peut-être 2025. On a parlé peut-être de le faire aux 2 ans. En tout cas, ça va être inscrit là, à suivre.
OK.
Puis, ce que les gens font, c'est de s'inscrire pour recevoir mes lettres officielles. Et puis là, ils vont avoir toutes les informations sur ce qui s'en vient.
Par courriel.
OK, ouais. Mais c'est sûr que j'offre beaucoup moins de choses maintenant parce que je suis pas retraitée. mais j'en fais moins quand même.
Semi-retraitée, est-ce que ça existe?
Ça certainement existe pour moi, là. Quand les gens posent la question, je dis que je suis retraitée de l'université, mais pas d'art-thérapie.
Merci, Johanna Mel, pour ton temps, ton inspiration aujourd'hui. On va poursuivre cette discussion-là dans un autre bloc.
Avec les questions en rafale. À tout de suite.
À tout de suite.
Donc, Joanne, on est rendu à la deuxième partie de notre entrevue où est-ce qu'on va te poser des questions de façon comme en rafale. Donc, c'est des petites questions courtes où est-ce que tu vas insérer ta réponse ou ce que tu aurais envie de répondre à cette courte question-là. Juste, on avait envie de faire ça parce que on a envie de voir aussi la variété des pratiques en art-thérapie. Donc, chaque art-thérapeute qui passe à l'entrevue va répondre à ces questions-là.
D'accord.
Donc, pour moi, l'art-thérapie, c'est...
C'est l'approche psychothérapeutique la plus efficace qui existe.
Pour moi, l'art-thérapeute, c'est...
C'est le plus beau métier du monde.
On sent l'amour. Pour moi, le processus créatif, c'est...
Qu'est-ce que j'ai répondu à ça? Ah, ben oui. Une façon extraordinaire de nourrir son âme.
S'il y avait une image, une phrase, un symbole, un mot qui représente ton travail, ta perception de ton rôle comme art-thérapeute?
Je vais dire quelque chose de très banal, c'est le mandala, banal pour les art-thérapeutes, parce que c'est un symbole d'unification. Puis c'est essentiellement ça le travail que je fais avec les gens, c'est de réunir toutes nos parties pour retrouver son intégrité, sa totalité, le plus possible. Alors ça répond bien à une image parlante.
Donc la création de mandala et non pas le coloriage de mandala.
Ah ben oui, ça effectivement, merci de préciser.
Prochaine question, c'est, on l'a ajouté, on avait envie d'avoir accès à quelque chose de très concret au niveau de, ça serait quoi une découverte récente que tu as fait et qui enrichit ta pratique au quotidien? Tu sais, ça peut être autant un truc de rangement qu'un un nouveau matériel que tu connaissais pas ou une technique, un exercice que tu as découvert récemment.
Bien, moi je fais partie de... L'IASD, c'est l'International Association for the Study of Dreams. Il y a des congrès aux États-Unis à toutes les années. L'année prochaine, ça va être aux Pays-Bas. Puis on a eu une rencontre dernièrement, le 12 août, de l'IASD régionale que Sophie Boudria a organisée. À travers l'année passée, quand je suis allée à... la conférence aux États-Unis, puis la conférence de cette année, bien, ce que j'ai découvert, c'est le rêve lucide comme outil psychothérapeutique. Donc, ça, je ne peux pas dire que c'est au quotidien dans ma pratique, là, parce que premièrement, j'ai besoin de travailler davantage pour moi être capable de faire régulièrement des rêves lucides, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai appris par des thérapeutes là-bas qui utilisent ça comme outil thérapeutique. J'ai appris d'eux que ça se fait. Mais je trouve ça très intéressant, puis j'aimerais ça éventuellement connaître assez pour intégrer ça dans ma pratique.
Wow!
Ça pique ma curiosité.
Les rêves lucides, c'est vraiment les rêves où tu sais que tu es en train de rêver.
Ouais.
Et tu peux explorer des parties de toi, tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, dans le fond. Mais c'est beaucoup un outil pour... pas pour contrôler le rêve, mais pour se développer à travers ce qui se passe dans le rêve.
Et si tu avais une question à poser à notre prochain ou notre prochaine invité, qu'est-ce que ce serait?
Ça serait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire dans ta carrière et que tu n'as pas fait?
Oh, j'aime ça.
Wow, j'aime ça.
Prochaine question. Si tu étais devant un ou une jeune art-thérapeute qui débute dans le métier, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner?
Oui, un conseil, j'en ai plusieurs, mais il y en a un, c'est d'aller chercher de la supervision. Parce que ça peut être lourd au début, puis ça peut tellement faciliter l'apprentissage puis le développement de notre carrière. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suggère. Et l'autre chose, c'est vraiment d'oser. D'oser, de se faire confiance, de développer tous les rêves qu'on a autour de l'art-thérapie, puis de foncer. C'est ça, foncez.
Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'art-thérapie dans les prochaines années? Si, par exemple, tu avais une baguette magique. Là.
Oui, bien ça, j'ai parlé tantôt de la reconnaissance des art-thérapeutes à la psychothérapie. Ça, c'est la première chose. Ça doit se faire et ça va se faire. Je sais pas quand, mais ça va se faire. Ça, c'est sûr. Que les art-thérapeutes soient intégrés dans le système de santé, parce qu'il y a tellement besoin de psychothérapeutes puis de gens qui sont compétents pour offrir de l'aide. Et il en manque partout. Donc, nous, on est là. On a, comme je disais tantôt, on a la compétence, on a la formation. On peut aider, donc, intégrer les art-thérapeutes dans le système de santé. Et je souhaiterais qu'il y ait un doctorat en psychothérapie par l'art.
Très intéressant. Dans l'objectif d'aller approfondir?
Pas nécessairement pour qu'il y ait plus de recherche, mais oui, de la recherche, mais approfondir encore la pratique clinique, bien sûr. Puis parce que ça donne des lettres de noblesse à la profession quand il y a un doctorat. Donc, on a des maîtrises qui ne peuvent pas se dire des maîtrises en psychothérapie. Donc là, moi, je voudrais qu'il y ait une maîtrise en un doctorat en psychothérapie par l'art.
Sur ces idées tellement inspirantes. Hein?
Oui, moi, je repars avec plus d'énergie. Je me dis, waouh,
wow,
oser. je vais sortir d'ici, là, je vais aller oser.
Absolument! Et puis, j'invite les art-thérapeutes à me dire, à me faire part de quoi ils vont oser, sur quoi ils vont foncer, qu'est-ce qu'ils vont oser faire, c'est quoi leur rêve de développement de leur pratique ou de l'art-thérapie, puis j'aimerais ça savoir ça. Alors, on peut m'écrire joanne.amel@commercial.uqat, j'ai encore mon courriel de l'UQAT, uqat.ca.
Est-ce que tu nous permettrais d'avoir cette discussion-là sur notre page Facebook qu'on a développée pour l'émission?
Oui, tout à fait.
Pour générer une conversation entre nous, en fait. On est encore au tout début. Et puis, je pense que ça peut générer une conversation, puis même une espèce d'effet d'entraînement, de pouvoir partager nos idées entre nous.
Oui, s'il y a pas juste à moi. Oui. Entre nous, tout le monde. Oui, absolument.
Ah, oui. Oh, génial. Donc, à la fin de cette émission-là, allez sur la page Facebook de notre émission qui s'appelle
« Je suis art-thérapeute, le podcast ».
OK. Et puis, vous allez pouvoir retrouver la conversation et le fil de discussion sur qu'est-ce qui vous inspire, de quoi vous allez oser suite à l'écoute de cette émission. Merci, Joanne!
Oui, j'aime ça. Bienvenue! Ça génère un sentiment d'appartenance dans la communauté des art-thérapeutes, là, qu'on puisse avoir des conversations ensemble. Mm-hmm. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir permis de dire tout ça. C'est toujours ma passion, hein? C'est toujours ma passion.
On le sent bien.
Oui.
Merci, Joanne.
Merci
à
encore.
À bientôt.
Bienvenue.